Bonjour, au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Mon nom est Jocelyne Dazé, je suis chargée de projet aux événements à la Direction de la programmation culturelle. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Simon Harel, professeur au département d'études littéraires de l'UQAM. Sa conférence intitulée « Le Square Émilie-Gamelin, un espace malmené » est présentée à l'occasion de l'événement État d'urgence. Simon Harel explore aujourd'hui le sens de l'itinérance en envisageant la place Émilie-Gamelin comme un espace public dont on peut inlassablement remettre l'existence en question. Avant de céder la parole à M. Harel, mais aussi à Mme Charlotte Calais de l'ATSA, qui souhaite vous adresser un petit mot, je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer la conférence que vous pourrez réentendre sur le portail Internet de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Merci d'éteindre vos cellulaires et puis bonne conférence. Je cède la parole à Mme Charlotte Calais de l'ATSA.
Oui, bonjour, merci à tous d'être là. Donc moi je suis Charlotte Calais, je suis la coordonnatrice générale de l'ATSA qui organise l'état d'urgence, qui se tient place Émilie-Gamelin, là, juste en ce moment. C'est dans le cadre de l'état d'urgence qu'on a demandé à Monsieur Harel de venir faire cette conférence. Je tenais à remercier infiniment Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Madame Dazé pour nous accueillir. Pour nous, c'est super important quand on travaille avec une population itinérante et qui est souvent victime de préjugés dans un lieu aussi comme spécifique que la place Émilie-Gamelin, de pouvoir s'ouvrir sur justement des partenaires plus institutionnels et ramener un autre public vers nous et vers les itinérants, finalement. Donc, je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Le site est ouvert jusqu'à lundi matin. Vous avez des petits flyers à l'entrée. Et merci à tous, puis merci à M. Harel. Bonne conférence.
Alors, bonjour. Je vais vous parler plutôt que je ne vais pas lire. Je vais vous parler d'un certain nombre d'éléments de réflexion autour du Square Émilie-Gamelin, en remerciant bien sûr l'ATSA pour ce qu'ils font depuis plusieurs années. Pour moi, l'ATSA c'est Montréal et c'est très important, ainsi que la Bibliothèque du Québec qui par sa présence dans le quartier, dans la ville même, fait en sorte que la culture est véritablement un espace public. On a donc là, il me semble, déjà le point de départ de notre réflexion d'aujourd'hui, que je ne vous proposerai pas là, sous la forme d'une conférence académique ennuyante, enfin je l'espère, c'est-à-dire avec la Bibliothèque du Québec et avec le Square Émilie-Gamelin, nous avons une réflexion qui est absolument fondamentale pour qui veut mieux comprendre aujourd'hui ce qu'il en est des espaces publics dans l'univers montréalais. Car ces espaces publics sont en crise. La notion même d'espace public est soumise à de profondes oppositions, à des enjeux divers qui font en sorte que la possibilité de vivre dans des lieux qui ne sont pas des lieux d'ores et déjà privatisés, dans des lieux qui ne sont pas déjà répertoriés, classifiés ou réservés à des clientèles, entre guillemets, ben cette possibilité de vivre est mise en cause. À ce titre, le Square Émilie-Gamelin me semble un symptôme particulièrement intéressant de l'univers montréalais. Dans la mesure où je crois que le Square Émilie-Gamelin est probablement le parc de Montréal qui fonctionne le mieux, entre guillemets. Fonctionner veut dire que ce parc, dans son caractère échevelé, dans son caractère contesté, nous montre bien comment la vie urbaine peut se manifester de manière intempestive, sans planification architecturale outrancière, encore que on le verra si j'ai le temps d'en parler tout à l'heure, que ce qui est aujourd'hui le Square Émilie-Gamelin a fait l'objet d'une grande planification architecturale à la fin des années 80, au début des années 90, jusqu'au moment de l'inauguration de cette place en 92, lors du 350e anniversaire de la ville de Montréal, alors que Jean Doré était maire de la ville de Montréal. Il y avait donc là une volonté d'instaurer dans l'Est montréalais, nous sommes au cœur de l'Est de Montréal, un témoignage urbanistique fort, comme on dit, qui a fait l'objet d'une réappropriation absolue par la population des itinérants, par la population des migrants, par la population des marcheurs au cœur de la ville, qui en ont fait autre chose, je dirais, qu'une autre abstraction formaliste post-moderne. C'est-à-dire un espace où l'on vit, où l'on se fait expulser, où les contraventions sont données de manière généreuse, où finalement l'on dérange. Et c'est cette ville que j'aime, c'est ce Montréal malmené qui, à mon sens, est un témoignage réel de ce qui se joue aujourd'hui à Montréal. À ce sujet, Simon Brault, qui est le responsable de Culture Montréal, a tenu il y a un certain temps un propos fort, évidemment général, mais un propos fort qui disait que l'avenir de Montréal consiste à devenir la plus grande ville alternative d'Amérique du Nord. Et le propos de Brault est intéressant dans la mesure où ce qu'il avançait, c'est que Montréal n'a pas à jouer la carte des Bilbao et des Toronto et des Seattle dans la construction du 74e musée d'art moderne, qui serait le témoignage d'un architecte que l'on paierait à grands frais et qui viendrait de Finlande ou de Papouasie et qui nous donnerait enfin des lettres de noblesse à l'échelle des métropoles culturelles mondialisées de taille moyenne. Ce que disait Brault, d'une certaine manière, parce que je l'avais lu plus qu'entendu, c'est que ce qui est important dans l'histoire de Montréal, c'est la dimension alternative au underground. C'est-à-dire, c'est une ville de souterrain culturel, pas simplement de ville souterraine, mais c'est une ville de souterrain culturel, de culture souterraine, de culture dite marginale. Et d'une certaine manière, ce qui se joue avec état d'urgence, dans le cadre de leurs activités, mais aussi de leurs activités, je dirais, annuelles, ce qui se joue avec ce qu'ils proposent, ce qui fait qu'on peut être ici ce matin, enfin ce midi, et en parler, c'est finalement un conflit de culture, sans doute aussi un conflit de société, et donc un conflit de valeurs, entre la perception d'une ville qui donne à ses sujets, qui font la ville un espace public, qui est un espace public non catégorisé, non privatisé, un espace ouvert aux prises de parole, et un autre espace, en témoigne, j'en parlerai de manière ici, je dirais, très partielle, l'autre espace, en témoigne le quartier des spectacles, qui, lui, prétend, dans une sorte de ferveur gestionnaire du domaine culturel, nous dire ce que sera le spectacle de demain. Bon, là, il y a sur un kilomètre et demi, je dirais d'ici, en allant jusqu'à la rue Bleury, il y a là un enjeu de société crucial qui se pose, qui fera la culture de demain. Les artisans, créateurs, artistes, itinérants du square Émilie-Gamelin seront-ils les locataires ou encore les travailleurs autonomes de la culture bourgeoise tels que répertoriés dans ce quartier des festivals qui donnera évidemment, selon une logique écuménique, parole à tous? Où y aura-t-il, je dirais comme ce fut le cas pour le square Émilie-Gamelin, si l'on regarde ce qu'il a été dès sa fondation en 92 jusqu'à aujourd'hui, eh bien, à l'instar de ce square Émilie-Gamelin, le quartier des spectacles sera-t-il cannibalisé, sera-t-il repensé, réapproprié par les sujets qui font la ville aujourd'hui? Car c'est de cela dont je veux vous parler essentiellement. Il y a, avec le square Émilie-Gamelin, me semble-t-il, quelque chose d'absolument central dans l'imaginaire urbain. L'idée, non pas d'un discours que l'on entend trop souvent sur, la marginalité des marginaux, la mélancolie des exclus, le voyeurisme coupable de ceux qui regardent les pauvres gens. Il y a dans ce qui se joue au square Émilie-Gamelin et autour du square Émilie-Gamelin un site absolument important de culture rebelle, une contre-figure de la festivité montréalaise sous son aspect, je dirais, de mécanique industrielle. Et il y a là quelque chose qui se joue de manière très nette et qui a de profondes résonances dans l'histoire même de Montréal, de Québec Underground et du mouvement T-pop au cours des années 60, en passant par les Chaouins d'Yves Boisvert et l'œuvre de Denis Vanier, jusqu'à ce square aujourd'hui. Il y a là quelque chose d'extrêmement important qui s'inscrit en faux, qui refuse finalement ce principe ludique, entre guillemets, festif, débonnaire, humoristique jusqu'au point d'en mourir d'un rire jaune. Ce principe, dans le fond, que la ville ne serait qu'un espace de parlementerie et de, je dirais, de blagues plus ou moins ratées. Il y a donc, avec le square Émilie-Gamelin, quelque chose qui m'intéresse dans la mesure où le square Émilie-Gamelin est un espace fébrile. Ce n'est pas un espace festif. C'est un espace fébrile, c'est un espace inquiet. Le square Émilie-Gamelin, d'une certaine manière, est toujours au bord de l'émeute, du débordement, de l'entrop. Et le square Émilie-Gamelin est tout à fait le contraire de ces modèles de square ou de parc que l'on retrouve un peu partout à l'échelle mondiale et qui veulent accueillir le citoyen, lui donner un espace où il puisse contempler le paysage, où il puisse être, comment dire, à la fois conforté dans un lieu qu'il habite, qu'il se réapproprie et qui témoigne du génie du lieu. Le square Émilie-Gamelin est, d'une certaine manière, à l'image, avec évidemment toutes les généralisations et les exagérations qu'un tel propos suppose, est à l'exemple de ce que les Black Panthers théorisaient au cours des années 60 sous la forme de la guérilla urbaine. C'est-à-dire que cette guérilla, aujourd'hui, elle se joue dans le domaine culturel. Les Black Panthers faisaient intervenir cette guérilla urbaine dans le Los Angeles des années 60 et dans le New York des années 60 à partir d'un principe qui était celui de la lutte militaire, une autre époque. Mais on peut dire qu'il y a une guerre en cours aujourd'hui qui voit le jour dans le domaine des images et des signes. Et de ce point de vue, ce qui se passe au square Émilie-Gamelin est absolument important, car il s'agit d'une autre représentation de la ville, une ville fébrile, une ville inquiète, parfois une ville panique, je le disais tout à l'heure, au bord de l'émeute, en tous les cas du débordement et de l'excès. Une ville qui ne peut plus faire valoir, lorsqu'on pense au square Émilie-Gamelin, je dirais au discours consensuel et embourgeoisé du pluralisme, qu'il s'agisse du multiculturalisme ou de l'interculturalité, c'est-à-dire cette cohorte de sujets tous différents qui, par le biais d'accommodements raisonnables ou déraisonnables, pourront s'entendre. Au square Émilie-Gamelin, on ne s'entend pas. C'est-à-dire que quelque chose se joue qui est absolument important, c'est-à-dire une violence. Une violence qui, évidemment, est une violence réelle, une violence territoriale. Lorsqu'on parle de l'itinérance, on ne parle pas de séjour touristique organisé. On parle d'une réalité crue, on parle de la réalité crue du temps présent. Et cette violence fait intervenir aussi, bien sûr, à côté de cette fébrilité que je mettais en relief, une effervescence qui est l'esprit de l'Est de Montréal. Vous savez, là où nous sommes aujourd'hui, il y a peu d'années, le Palais du commerce. Ça fait partie de l'histoire de Montréal, tout comme cette bibliothèque déjà fait partie de l'histoire de Montréal. Mais dit-on, ce qui fait qu'un palais du commerce s'est, disons-le de cette manière, métamorphosé, non pas en palais du livre, parce qu'il y eut au palais du commerce un palais du livre, mais nous avons aujourd'hui une grande bibliothèque. Et c'est une grande bibliothèque qui accueille les Montréalais. C'est une institution absolument cruciale. Nous devions avoir cette bibliothèque. Pensons à l'autre côté de la rue Berry, à cet îlot voyageur de mon université bureaucratisée et un peu schizoïde. Nous avons là une sorte, je dirais, de mausolée académique où l'on pourra peut-être, après la retraite de professeurs vieillissants, les laisser comme ça, je dirais, dériver dans des barques, dans des piscines aménagées si l'on n'en fait rien. Donc, c'est l'histoire de l'Est de Montréal. Vous savez que le square Émilie-Gamelin, avant d'être un square, a été un espace non habité, c'est-à-dire un terrain vague, pendant très longtemps. Il y avait aussi les Sœurs de la Providence qui furent installées pendant une très longue période, mais il y a eu de très nombreux aménagements et réaménagements urbains au cours d'une longue durée historique qui caractérise le square Émilie-Gamelin. Mais c'est de l'Est dont nous parlons constamment, de l'Est de Montréal, de la place du Puy, de ce qui est aujourd'hui la place du Puy, mais des magasins du Puy, de la rue Sainte-Catherine, du restaurant Da Giovanni, qui connut une grande fortune culinaire à la fin des années 50. Donc, à la fois du petit peuple de Montréal, ce qui n'est pas péjoratif dans mon propos, et d'une volonté d'inscrire, évidemment, dans une trame qui est une trame, je dirais, économico-politique, un centre-ville au cœur de l'Est. Bon. Avec la Grande Bibliothèque, cette présence s'est réalisée de façon extraordinaire, ce qui fait qu'on a une malheureuse petite place publique tout à l'avant de la Grande Bibliothèque, qui n'est pas monumentale, mais qui est toujours animée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assis constamment, jour et nuit à cet endroit. Il y a un génie du lieu qui, d'une certaine manière, magique, qui doit beaucoup aux architectes, à faire en sorte que cet espace y est habité. On ne sait ce qu'il arrivera de l'île aux voyageurs. Vous avez, par contre, l'Université du Québec à Montréal, de l'autre côté, qui tient lieu de forteresse dans une mauvaise pièce de Shakespeare. Il n'y a pas de pont-levis, mais ils existent. Ils existent dans l'imaginaire des badauds qui marchent boulevard de Maisonneuve. Vous avez le square Émilie-Gamelin qui est finalement un zoo humain, une sorte de répertoire d'iconoclastes, de personnages étranges, des déambulateurs, des migrants, des jeunes qui deviennent pour un temps plus ou moins long, pour quelques mois, pour la vie, qui deviennent itinérants. Alors, devenir itinérant, dans le contexte où, je dis devenir, non pas être itinérant, mais être un itinérant de passage, dans le contexte de la réflexion présente, c'est absolument essentiel que l'on, précise la nature de la réflexion. Je vous disais donc que l'Est de Montréal, c'était ce quartier, entre autres, qui est le témoignage de réussite, de grande réussite et d'échecs patents. Et que toute l'histoire, d'ailleurs, de Montréal a été consacrée à cette tentative de revitaliser l'Est de Montréal. On ne parlera pas ici de Radio-Canada, autrefois, et des tentatives de réaménagement de ce quartier, puisque Radio-Canada veut maintenant déménager. Alors, la question que l'on doit se poser, c'est qu'en est-il d'un espace urbain? En témoigne notamment le square Émilie-Gamelin. Qu'en est-il des espaces publics lorsqu'ils font l'objet de mises en cause majeures ou de modifications substantielles? Et sur cette question, le square Émilie-Gamelin m'intéresse dans la mesure où c'est un lieu qui est encore en friche, d'une certaine manière. C'est un lieu, un des rares lieux montréalais, à la fois, la source d'un développement technologique majeur, parce que si l'on regarde le cahier de charge du square Émilie-Gamelin, on conçoit qu'au début des années 90, on a en tête de grands projets. Il y a un sous-sol au square Émilie-Gamelin là qui est, nourri de fibres optiques et de dispositifs complexes d'alimentation électrique pour des spectacles majeurs. On avait de grandes ambitions pour le square Émilie-Gamelin. Ça a coûté une fortune de faire le square Émilie-Gamelin, ce qui est devenu le square Émilie-Gamelin. Donc, à la fois des mesures technologiques, des mesures aussi du projet, avec l'œuvre de Melvin Charney, avec la conceptualisation même de cet espace public qui favorise la rencontre de l'architecture et de la sculpture, mise en scène d'un espace qui se veut dans l'esprit des... concepteur de l'époque, comme une place idéale. On veut que Montréal, dans l'esprit des années 90, on veut que Montréal devienne une ville qui échappe d'une certaine manière à cette pauvreté, entre guillemets, culturelle, à cette anomie culturelle de l'Est. On veut donc faire grand. Et donc, on va créer une place idéale. Mais une place idéale au début des années 90 qui fait abstraction de ses occupants. Une sorte de théâtre antique, avec comme dispositif, d'un côté, Da Giovanni, de l'autre, la place du Puy, de l'autre, les garages de l'UQAM, et au nord, le terminus voyageur. Alors, voilà, fantaisie italienne de la part de ces architectes qui se disent « nous allons créer une place idéale, mais, léger problème, dans la construction de cette place, l'on a oublié quelqu'un, les occupants, on a oublié quelque chose, le quartier. » Et donc, on voit donc à quel point cette rhétorique de l'espace public est totalement anodine et insignifiante, puisqu'elle est fondée, et on va l'observer au cours des années, sur des fontaines qui ne fonctionnent plus, parce qu'évidemment, un tel décide de faire son lavage, et bon, c'est un peu gênant. On a beau vouloir italianiser la place, quand même, à ce point, les cordes à linge avec les sculptures de Charnay, c'est un peu gênant. On n'en est pas à ce nouveau branding montréalais que Bourreau décrit avec beaucoup de justesse et qu'il vend avec beaucoup de talent. C'est « Montréal sera la grande ville alternative d'Amérique du Nord ». Un Eight Ashbury de 2012 ou de 2015 ou de 2020. Alors, ce n'est pas l'époque. L'époque est au rehaussement, c'est-à-dire à l'embourgeoisement, au formalisme architectural, qui consiste finalement à faire en sorte qu'on oublie que l'on se trouve dans l'Est ou à gentrifier l'Est. Ce qu'un grand spécialiste des questions urbaines, qui se nomme Michael Sorkin, nomme d'une expression que je trouve absolument extraordinaire, il parle notamment, faisant référence au Bryant Park de New York, il fait référence à ce « domestication by cappuccino », c'est-à-dire l'idée que dès que vous pouvez avoir votre portable qui vous géolocalise au square Émilie-Gamelin avec votre latté, eh bien, évidemment, vous pouvez être sûr que les prolétaires du quartier, les artistes en autogestion, en autogéré, comme les toxicomanes, vous devez partir parce que vous êtes mort. C'est terminé. Allez vivre ailleurs. Alors, c'est ce que Sorkin appelle « domestication by cappuccino », c'est-à-dire ce principe de l'embellissement du parc, qui évidemment n'est pas neuf dans l'histoire des formes architecturales, mais qui aujourd'hui, par le recours à ce que j'appellerais la mobilité culturelle, s'accroît de manière, je dirais, exponentielle. En d'autres termes, dans le nouveau discours des espaces publics, on peut être développement durable, on peut être écolo-machin, on peut être, en guillemets, conscientisé, on peut être mondialisé, mais il faut bouger. Or, les itinérants bougent, mais tournent en rond. C'est une figure. Ils tournent en rond autour du square Émilie-Gamelin. C'est gênant. Ça ne rentre pas, ça, dans le protocole de la grande ville alternative d'Amérique du Nord. Parce que si l'on a en tête des populations de bohémiens, hein, c'est l'expression de Richard Florida qui a une chaire à l'Université de Toronto, et si l'on est dans cet esprit de l'index bohémien des villes créatives mondialisées, évidemment, l'itinérant, il est gênant, parce qu'il n'est pas gentrifié. Alors, évidemment, on pourrait lui faire suivre des cours du soir à l'UQAM, lui créer un diplôme d'études spécialisées, afin d'en faire un intervenant culturel en médiologie, je ne sais trop, mais il embête, l'itinérant, il embête beaucoup. Il embête beaucoup aussi parce qu'il est au cœur de la ville, il est au cœur de l'Est, il est au cœur de l'Est de Montréal qui, rappelons-nous, Michel Tremblay, et rappelons-nous surtout les pièces de théâtre de Michel Tremblay, il est au cœur d'un univers qui est cet Est de Montréal, qui est un théâtre de travestissement, d'imposture et de trahison que l'on retrouve dans l'œuvre de Tremblay, c'est-à-dire l'œuvre de Danée Manon sans Cressandra, d'Osana, en fait de toutes ces grandes pièces de théâtre qui montre qu'il y a, à propos de l'Est de Montréal, quelque chose qui résiste absolument à toutes les formes de réappropriation identitaire, de gentrification et d'embellissement. En ce sens, ce qui se joue, et qui n'a rien à voir avec ma conférence de ce midi, mais bon, j'ai toute liberté, je suis seul à l'avant, Ce qui se passe au Café Cléopâtre est intéressant, dans la mesure où vous savez que le village d'Astérix qui résiste à l'envahisseur, c'est le Café Cléopâtre. Évidemment, qui, dans l'ensemble des poursuites judiciaires et des commissions, je dirais, pseudo-parlementaires dans le domaine culturel à Montréal, fait valoir qu'ils sont le patrimoine et qu'ils accueillent depuis longtemps une population d'artistes et qu'ils sont absolument essentiels à la survie du quartier. Alors, évidemment, ce qu'a fait Cléopâtre, on peut juger que c'est une binérie sexuelle de mauvais goût, qu'il s'agit d'écraser comme ça du pied un dimanche matin alors que personne ne regarde. On peut dire, évidemment, que les promoteurs immobiliers ont du culot de transformer ce café en modèle, je dirais, de république poétique postmoderne. On peut se dire aussi qu'il y a quelque chose d'étrange et de troublant qui fait en sorte que dans l'Est de Montréal, il y aura toujours quelqu'un qui résistera. C'est-à-dire, il y aura toujours de la résistance. Et c'est ce dont témoigne, me semble-t-il, le square Émilie Gamelin, qui est un site impur. Un site impur dans une ville. Site impur, site qui fait jouer une abjection, qui fait jouer le contraire de l'idéologie éco-sanitaire, et pourrais-je rajouter écolo-sanitaire, qui consiste à dire qu'un parc, c'est fait pour respirer de l'air pur, pour que les enfants gazouillent en se promenant dans les allées, pour que le bon professeur d'université puisse aller lire son livre de Blaise Pascal au moment du repas du midi au mois de mai, que les étudiants puissent aller terminer leurs travaux avec, si on peut l'avoir un jour à proximité de l'UQAM, une architecture web sans fil, de manière à ce que tout le monde soit bien studieux, ravi, respire l'air pur. Voilà le modèle du parc, qui n'est absolument pas, évidemment, le square Émilie Gamelin. C'est un site impur. Ce n'est pas, comme le concevaient les architectes de ce square, le clone d'un imaginaire classique ou renaissant. C'est un site impur et cruel, le square Émilie Gamelin, qui implose, souffre, se convulse. C'est la ville même qui souffre. C'est la ville des années 90, alors que ce site est environné, je le disais tout à l'heure, d'Adjovani, du terminus voyageur, d'un palais du commerce gênant, d'un horrible dépôt de tours bétonnées et d'une université du Québec qui n'offre que des murs aveugles. L'avenir du square Émilie Gamelin, l'avenir de ce square par ses habitants, qui sont bien évidemment des migrants puisqu'ils n'habitent pas à demeure dans un square qui deviendrait alors un ghetto, l'avenir de ce square est essentiel pour penser ce que j'appelle une contre-festivité montréalaise, c'est-à-dire non pas un avenir à la Gilbert Ozon, qui fait bien son travail, qui se soucie peu que je parle ce midi d'ailleurs, mais que ce Montréal des hôtels de passe, des transactions illicites, du recel et de la délinquance continue d'exister, comme ce fut le cas lors de l'existence du Palais du commerce. Je n'engage évidemment pas les personnes présentes à voler des ouvrages à la Bibliothèque du Québec, ce n'est pas ce que je dis, mais je dis tout simplement qu'il y a un imaginaire culturel du recel, de ce que j'appelle, donc, des ouvrages que j'ai commis, un braconnage. Il y a un imaginaire du braconnage, du recel, qui me semble important pour contrer, et c'est l'enjeu des espaces publics aujourd'hui, le néolibéralisme des espaces publics à la carte. C'est-à-dire l'idée que les espaces publics doivent répondre à des fonctions sociales ou urbaines imposées. Selon le principe, par exemple, des gate communities, c'est-à-dire, dans le fond, des quartiers qui sont créés pour une communauté de retraités actifs ou de retraités en perte progressive d'autonomie. En fait, vous voyez, c'est cette idée d'un particularisme de l'univers urbain qui fonctionne selon le principe de ségrégation consentie. Le square Émilie Gamelin, en ce sens, est tout à fait intéressant parce qu'il témoigne d'un tohu-bohu. J'insiste sur cette expression Il témoigne de quelque chose qui se joue encore une fois sous la forme de l'excès, sous la forme d'un paysage urbain d'une réelle vitalité. Et c'est en ce sens que ce square est intéressant, parce qu'il a maintenant quelques années derrière lui, hein, il est inauguré en 92, que depuis, la ville de Montréal et ses planificateurs et ses architectes dans le domaine du paysage urbain ont fait des choses extraordinaires. Il y a de très beaux parcs à Montréal, en fait. Je veux dire, il y a eu une révolution dans l'aménagement de ce qu'est l'espace public à Montréal. Et je dois même avouer que le quartier des spectacles suscite chez moi une profonde ambivalence. Par moments, je me dis « merde ». Et par moments, je me dis « quand même ». Il y a quelque chose là qui, dans la démesure de l'aménagement, a de la gueule. Et ce que je veux simplement souligner à propos du square Émilie-Gamelin, qui est l'objet de ma réflexion aujourd'hui, c'est qu'il est important que ce square, comme c'est le cas pour les quelques jours où état d'urgence y sera, puisse échapper à ce principe de cette domestication by cappuccino. Il est important, dans notre conception des espaces urbains, qu'on se rappelle l'histoire. Il est important de savoir que ce square Émilie-Gamelin fut autrefois la place Émilie-Gamelin et que pour des raisons à la fois administratives et juridiques, on a changé évidemment la nomination parce qu'on voulait faire en sorte que la population de ce square ne puisse y dormir la nuit. Donc, il y a eu une modification du statut juridico-spatial qui répondait à des exigences de réglementation policière. Mais il faut savoir que ce square qui a été une place, a été le parc Berry, que j'ai connu, ayant fait des études à l'UQAM. Le parc Berry, c'est un espace clôturé. À la corridor, chez Drapeau, c'était simplement un parc de stationnement. Il faut savoir que l'on n'hésitait pas à parler aussi, autrefois, du parc de Montigny, d'après le nom initial de la station de métro Berry de Montigny, qui fut changée en 1987 pour Berry-UQAM, et qui est aujourd'hui l'édicule de la station Berry-UQAM à l'intersection de la rue Sainte-Catherine et de la rue Saint-Denis, où se trouve une sculpture. Une sculpture dont des Sœurs de la Providence de la communauté de Mère Gamelin. Donc, nous avons ici un espace extraordinairement complexe dans l'enchevêtrement des nominations et des représentations. Il faut savoir donc que le génie du lieu ne cesse de nous hanter. Que veut dire ce génie du lieu? L'idée, certes très romantique, que les espaces ne sont pas neutres, que les espaces sont porteurs d'une mémoire culturelle. Et si cette hypothèse se vérifie, et je le crois, il faut savoir que se trouvait à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Saint-Hubert l'asile de la Providence, dont la construction débuta en 1841 pour se terminer en 1843. Il faut savoir qu'on offrait dans cet asile soupe populaire, hébergement, travail communautaire. On devrait savoir que cet asile fut présent dans la trame de l'Est montréalais sur une très longue durée, et on ne peut ignorer que cet asile fut un lieu de passage pour passagers et déplacés, pour de nombreux travailleurs en mouvement lors de la rapide industrialisation du port de Montréal, qui est tout à côté d'ici. Donc, il faut savoir que ceux qui se trouvent au square Émilie-Gamelin pour la soupe populaire s'inscrivent dans une filiation historique et culturelle qui relève non pas d'une histoire subalterne, mais d'une histoire aussi officielle que l'histoire des grands propriétaires fonciers de la ville de Montréal. Et le square Émilie-Gamelin, à cet égard, doit être non seulement nommé, il doit être représenté, il doit être symbolisé. Il doit être symbolisé dans la mesure où le square Émilie-Gamelin provoque évidemment, par son existence, un trouble chez certains d'entre nous, puisque c'est un square qui fait intervenir, aux yeux de tous, la réalité de l'itinérance. Qu'est-ce que ça veut dire l'itinérance? Je ne suis pas un sociologue de l'itinérance, je ne suis pas un psychologue dans le domaine du travail d'intervention auprès des itinérants, je suis un littéraire. Littéraire, ça veut dire quelqu'un qui lit beaucoup, mais c'est quelqu'un qui s'intéresse aux récits. Mon travail consiste à faire une chose, c'est étudier le domaine des récits, récits littéraires, récits sociaux. Or, ici, nous avons un récit social qui est celui de l'itinérance. À itinérer, si l'on ne prend pas en compte la récente modification de l'expression qui veut dire itinérer au sens où l'on se déplace de pays en pays avec un téléphone portable, c'est un contrat d'itinérance, on peut signer un contrat d'itinérance. Le fait d'itinérer tel que je le conçois, c'est l'acte de piétiner, de ressasser un même mouvement, comme on le retrouve, cet acte, dans un très beau film de Denis Arcand qui a pour titre « Maudit calvaire ». C'est-à-dire que finalement, on marche dans la ville, mais on revient au port d'attache. Et il y a là, bien sûr, à propos du square Émilie Gamelin, quelque chose d'extrêmement important. C'est que les discours que nous tenons, et quand je dis que nous tenons, j'entends les quelques universitaires qui sont au même étage que moi et d'autres qui se retrouvent à l'étage en dessous. Lorsque nous, littéraires ou sociologues ou anthropologues, parlons de déambulation, de liberté de mouvement, lorsque nous faisons valoir que la culture ressemble à un accélérateur de particules où l'on ne cesse d'être confronté à des informations qui proviennent de la planète tout entière. Alors, évidemment, ce sont toutes ces fabulations médiatiques bien réelles qui s'appellent Twitter et Facebook. Voilà, la culture est devenue mondiale. Elle est mondialisée. Elle se joue dans le temps présent, dans l'instantanéité du temps présent. De même, dira-t-on, les mouvements transnationaux des migrations font en sorte que la Chine, c'est Montréal et que Montréal, c'est Hong Kong. Oui, bon, si vous avez le passeport pour y aller, si vous pouvez vous permettre de payer le billet d'avion, si vous avez le visa, si vous avez le permis de travail, oui, si vous n'êtes pas refoulé aux frontières, s'il n'y a pas une commission dont le métier est de refouler de façon quasi systématique les réfugiés. Aux frontières, encore une fois, ici ou ailleurs. Mais il faut bien voir que ce vocabulaire de la déambulation, donc de la liberté de mouvement, est tout à fait en contradiction avec ce que l'on observe à côté, au square Émilie Gamelin, c'est-à-dire un paysage urbain qui fait valoir une dérive, qui fait voir un ressassement, des mêmes gestes, entassement de déclasser et de laisser pour compte. Évidemment, tout cela laisse entendre un monde qui ne va pas bien. Un monde qui ne va pas bien, c'est un monde qui n'est pas en mesure de raconter, par le biais de ce que j'appelle un récit, des expériences sociales, émotionnelles, des savoirs, donc des éléments cognitifs. Un monde qui ne va pas bien, c'est un monde qui ne représente pas des aspects de la socialité qui dérangent. Or, l'itinérance dérange profondément. L'absence de véritable débat public, sauf récemment, sur l'itinérance, le silence de mort sur ces questions, comme ce fut le cas autrefois à propos des enfants du Plessis, témoigne de quelque chose qui dérange profondément au Québec. Il est sûr que l'Audi 4 ou l'Audi 6, que je vous recommande d'ailleurs personnellement, vaut mieux que l'itinérance. C'est le Québec tel qu'on veut le voir. Promenez-vous en Audi ou en Mercedes. Et oublions les enfants qu'on a oubliés justement en cours de route, ces enfants du Plessis ou ces enfants du refus global. Bah, dans le fond, perte et profit, qu'est-ce que ça change? Est-ce si important de se soucier de ses proches, de ses propres enfants ou de ses petits-enfants? Il y a là, me semble-t-il, dans cette difficulté à nommer les récits de l'itinérance dans le Québec d'aujourd'hui, et notamment dans le Montréal d'aujourd'hui, quelque chose qui témoigne d'une symbolisation en panne, quelque chose qui témoigne d'une ville assiégée. C'est-à-dire que cette ville assiégée, c'est le square Émile Gamelin, que l'on gruge de tous bords, tous côtés, avec ce quartier des spectacles qui se déplace vers l'est et qui, à la limite, pourrait faire du square Émilie Gamelin une sorte de parc Belmont, je dirais, pour personnages vaguement débiles, qui représenteraient une forme exotique de représentation, de l'indigénisme de l'est de Montréal. Évidemment, il n'est pas question, vous me comprenez, il n'est pas question de céder à tel projet qui ne se ferait pas de toute manière. J'exagère un peu, c'est une forme de rhétorique, si vous voulez. Mais il n'en reste pas moins que le malaise est réel et que ce qui se joue au square Émilie-Gamelin, aujourd'hui et demain, lors d'état d'urgence, mais pour la suite des choses, c'est aussi l'imaginaire d'une rébellion possible. D'une rébellion possible à l'exemple de ce que l'on appelait autrefois les sans-terres, qui sont aujourd'hui les sans-logis, qui n'ont plus de lieu où habiter, où les zones de conflit se jouent dans une cité bétonnée, où finalement l'imaginaire urbain est le siège de mobilité précaire qui sont le fait d'une itinérance qui gêne absolument et qui suscite une intervention policière systématique. Couvre-feu, conflit. Au cours des années 90, à propos du square Émilie-Gamelin, on parle d'affrontements de punks et de policiers, d'émeutes et de révoltes de squeegee, d'intolérance, de surveillance, de dealers et de prostituées. N'allez pas là. Ça sent mauvais. C'est le discours que l'on tient dans la grande presse, dans l'ensemble des, je dirais, des expressions journalistiques de l'époque. C'est la rue. Et la rue, c'est dangereux. Dans ce discours, qui est un discours qui s'emballe, bien sûr, le monde circonscrit des squeegees de l'Est de Montréal ressemble assez à une rumeur de révolte planétaire qui associe Kaboul, Bagdad et la description d'une insécurité des familles vécues par les familles au cœur des villes. Or, pour qu'une ville soit vivable et pour qu'elle ne soit pas simplement aménagée, il faut que cette ville respire. Et il faut que les populations précarisées, en fait, ce qu'on appelait autrefois les gens de peu ou les gens mal pris, il faut que ces populations précarisées puissent retrouver non pas simplement un sentiment de dignité, mais le droit de vivre dans un lieu qui leur appartient parmi d'autres lieux. Il faut donc, à mon sens, de manière urgente, donner une parole, mais surtout un droit de parole, parce que la parole, ces sujets l'ont déjà. Le sujet du square Émilie-Gamelin, itinérants, jeunes, migrants, prostituées, dealers, graffiteurs, étudiants, ces sujets du square Émilie-Gamelin sont des sujets. Ils ont une parole. Redonner la parole, ce n'est pas leur donner la parole de manière paternaliste, c'est faire en sorte que ce que j'appelle des tribus, des multitudes, des va-nu-pieds, des désespérés, des enfants de la rue, toutes ces expressions qui ont pour rôle d'imaginer un peuple hors les murs, une société marginale, que toutes ces populations puissent apparaître dans le domaine des récits que nous tenons sur la ville. Et donc, en finir avec un imaginaire débonnaire de la festivité qui ne pose à aucun moment la question de la responsabilité sociale à l'égard de ceux qui, dans l'échelle sociale, dans la représentation de l'échelle sociale, se trouvent en bas. Il y a une urgence ici qui consiste pour les écrivains, pour les poètes, mais je citais tout à l'heure Denis Vanier, et je pourrais en citer d'autres, mais il y a une urgence qui consiste à relayer cette prise de parole et à en faire un territoire culturel qui ne soit pas un territoire culturel normatif. Ce qu'a fait il y a déjà longtemps Marie-Claire Blais dans un roman ancien qui se nomme Pierre, qui est un beau roman, où Marie-Claire Blais associe cette violence au nomadisme des désespérés. Ce que l'on retrouve dans l'œuvre poétique d'Yves Boisvert, ce qu'on retrouve aussi dans l'œuvre poétique de Desbiens, ce qu'on retrouve dans l'œuvre romanesque de Jean-Jules Richard, avec un texte qui date des années 60, de 65, si je ne fais pas erreur, et qui a pour titre « Journal d'un hobo », qui est un très beau témoignage littéraire, un très beau témoignage fictionnel du monde de l'itinérance, notamment à Montréal. Il importe de réfléchir à ce que j'appelle une habitabilité. Une habitabilité, ce n'est pas un néologisme de Raoul Duguay, une habitabilité, c'est le fait de vivre dans un espace dont la résonance émotionnelle vous donne le sentiment d'avoir droit, vous aussi, à un sentiment de sécurité. Car les itinérants ont droit, eux aussi, à ce sentiment de sécurité. Ils n'ont pas à vivre dans notre imaginaire embourgeoisé de la déchéance. Ils n'ont pas à vivre dans cet imaginaire insupportable de la rhétorique bourgeoise de la déchéance, car déchoir, c'est tomber, c'est chuter, c'est être jeté hors du nid, hors du lieu natal. Dans cet imaginaire de la déchéance, il y a l'idée de quelque chose de profondément tragique, une fin du monde. À la mode par les temps qui courent. En passant The Road, le livre, est un chef-d'œuvre. Bon, mais cet imaginaire donc de la déchéance, nous l'entendons, je dirais, avec une certaine complaisance. Or, ce n'est pas de cela dont il s'agit dans mon propos. Il importe, encore une fois, de redonner au sujet le droit de parole, le droit d'errer, le droit de vivre la vie que ces sujets veulent mener, de rebondissement en rebondissement, d'errance en point de rupture. C'est important, donc, de faire en sorte que cet itinéraire singulier des itinérants soit respecté, qu'il soit, comment dire, compris comme une vie urbaine parmi d'autres vies, avec le soutien, l'aide, le support, l'ensemble des ressources qui peuvent permettre d'échapper si les désirés d'y échapper, enfin, la possibilité d'aller vers autre chose. Mais cette dimension est absolument cruciale. Cette dimension est cruciale de l'itinérance, car elle se joue, cette itinérance, et c'est un élément que je veux mettre en relief en guise de conclusion, cette itinérance se joue au temps présent. C'est un élément puissant que de parler du temps présent, puisque le récit que nous proposent ces itinérants, les stratégies de survie que nous proposent ces itinérants, mais qu'ils gardent surtout secrètes, sont des façons de vivre au temps présent. Et donc, de jouer dans un univers qui n'est pas celui de la revitalisation patrimoniale, qui n'est pas l'univers de l'idéologie éco-sanitaire, mais qui est l'univers de la ville actuelle. À ce titre, je cite trois auteurs, Mercier, Morin et Parazelli, qui écrivent, un passage qui me semble lumineux, je pourrais donner la référence à ceux qui sont intéressés à la fin de ma présentation. Cette tendance à la réhabilitation des quartiers centraux vise à structurer un environnement projetant des prégnances symboliques de prospérité qui entre en conflit avec la représentation de décadence urbaine que les populations marginalisées projettent souvent sans nécessairement le désirer. Le passage qui suit est important. Les termes associés à la nouvelle identité promue, à savoir revitalisation, réanimation, renaissance, évoquent des espaces malades, voire moribonds, en référence à la métaphore organique de la ville imaginée comme un corps vivant, corps qui aurait besoin d'un nouveau souffle pour être régénéré. La présence des populations marginalisées dans des espaces convoités est alors vue comme un symptôme ou comme un stigmate du piètre état de santé de la ville. Cette remarque est absolument cruciale. Elle est absolument cruciale dans un contexte où Montréal lui-même mute, du moins se métamorphose réellement, en témoigne la Grande Bibliothèque, mais aussi d'immenses projets retardés par la crise financière de l'année dernière, de cette année, et nous verrons ce qu'il en sera en 2018. Mais en tous les cas, d'immenses projets qui ont été mis en place, notamment dans le domaine culturel, avec un sommet tenu il y a maintenant, si je ne me souviens bien, 2 ans, sur ces questions. Nous voulons, semble-t-il, comme société montréalaise, revitaliser et réanimer Montréal dans le domaine de la culture, en échappant à ce syndrome du 83e musée d'art moderne, dont nous serions les constructeurs retardataires. Nous voulons faire quelque chose d'autre, semble-t-il, une ville alternative, une ville où il est possible de vivre et de créer dans un contexte économique où la précarité associée à la création n'est pas un empêchement. Soyons attentifs à ce que cette revitalisation, à cette réanimation, que cette renaissance qui est le lieu commun de toutes les définitions de ville états-unienne, le « Renaissance City », en fait, tous ces discours de revitalisation de centres urbains en déshérence, faisons en sorte que nous ne passions pas les itinérants à la trappe dans cet univers, ou que nous n'en fassions pas, je dirais, une cohorte de déambulateurs dans quelques, je dirais, nouveaux festivals de la, je dirais, de la parade urbaine, en témoigne ce qui eut lieu l'année dernière à Montréal, en conclusion du festival Juste pour rire, une sorte de festival New Orleans in Montreal. Faisons en sorte donc que ces sujets qui témoignent d'un savoir-vivre urbain important, ces sujets stigmatisés, soient pris au sérieux et soyons attentifs, nous, Montréalais, aux conflits territoriaux qui jouent au cœur même de notre ville. Car, à propos de l'itinérance, se pose, en définitive, cette question. Quelle est notre responsabilité? Que faut-il faire? Intervenir? Ne pas intervenir? Laisser faire? Quel est notre statut de spectateur à propos de cette itinérance montréalaise? Sommes-nous dans cet imaginaire des parents, des grands frères, des grandes sœurs, des oncles ou des tantes? Quelle est cette filiation que nous nouons indirectement avec ce peuple d'itinérants? Quelle est notre responsabilité? Il est en effet facile et détestable de prendre plaisir à regarder les marginaux, comme s'il s'agissait d'espaces exotiques que l'on voit de loin. Il est détestable d'imaginer que l'on pourrait aller au Square Émilie-Gamelin cet après-midi pour observer, je dirais, avec le plaisir des nantis, l'infantilisme de population ou le dit infantilisme de population marginalisée que l'on regarderait, encore une fois, comme dans un zoo humain. Soyons attentifs à la création de nouvelles solidarités. Soyons attentifs à la mise en place de nouvelles façons d'être ensemble, dont le Square Émilie-Gamelin me semble un symptôme particulièrement important. Merci.
Merci, M. Harel. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. On pourrait avoir une courte période de questions.
J'aurais un commentaire. Mon nom est Rosario Demers. Je suis un citoyen qui habite ce quartier. Vous êtes dans un quartier qui s'appelle le Faubourg Saint-Laurent, de longue tradition. Si vous voulez en connaître l'histoire, M. Harel, vous pourrez consulter cet ouvrage que nous venons tout juste de publier.
Merci, oui.
Avec votre collègue Joanne Burgess, oui, du département d'histoire. Alors, j'ai habité pendant 20 ans tout près de cette place que vous voyez là. Et je suis présentement engagé, et ce depuis 20 ans, pour le développement social du quartier et de tous les enjeux du quartier. On a travaillé beaucoup sur cette question de la place qui est là. De mon point de vue, de partir de mon cadre de référence ici, d'habitant du quartier, peut-être perçu comme ce bourgeois, nourri d'un certain imaginaire concernant les itinérants que l'on aime bien glorifier, dont on aime bien glorifier la situation, j'aimerais me situer sur un autre angle. J'ai trouvé votre exposé très intéressant, mais je le trouve romantique.
Tout à fait.
Et puis, vous êtes un professeur à l'UQAM. L'UQAM s'est installé ici au début des années 60, dans les années 60, que je sache, avec une perspective d'engagement social, de solidarité envers la communauté qui était ici. Ouais. Et je pense que pour véritablement vivre cet engagement-là, il faut aller plus loin que la simple dérision de type universitaire.
Ouais, oui.
Alors, moi, je vois les choses un peu différemment ici. Ce serait un déséquilibre épouvantable pour la vie de cette communauté ici, pour la vie de ce milieu, que de penser que ce parc Émilie-Gamelin ne soit qu'un parc que pour les itinérants et approprié par ceux qu'on dit en situation d'itinérance. Ça introduit un déséquilibre qui nous envoie directement dans un mur. Ce n'est pas possible. Je suis allé à la place Émilie Gamelin hier soir. Pendant que j'étais là, la police est passée, et puis deux voitures de police. Et il y a un groupe de personnes qui est parti comme un voilier d'oiseaux pour aller se cacher. Parce que on sait très bien que dans tout cet environnement-là, présentement, c'est un très haut lieu de commerce de la drogue et qui crée une situation très problématique pour la société, qu'on ne peut pas discuter, voir à la légère. C'est un élément majeur pour notre vie urbaine ici actuellement. Donc, il faut considérer ce point de vue-là. Ce que je voudrais apporter comme témoignage, c'est que ce que nous avons cherché depuis déjà quelques années, précisément pour ce parc-là, et là, je vous rejoins dans ce que vous disiez un peu au début, il y a une certaine exemplarité dans ce parc-là, parce que effectivement, il se réalise une forme de mixité sociale. Mais cette mixité sociale ne va pas de soi. Il faut que ce soit aussi un effort, une œuvre construite d'une certaine façon. Et depuis quelques années, nous essayons d'introduire une certaine forme de diversité quant à l'occupation de ce lieu. Par exemple, la photo que vous voyez là, on voit quelques personnes avec un sac à dos, etc., là-bas, et une dame là, en rouge là, qui est assise là. Vraisemblablement, ce n'est pas une itinérante, c'est une personne qui passe, qui prend quelques minutes de repos. Et j'en ai vu des dizaines comme ça, précisément à cet endroit-là, l'été, pendant les jours chauds, certains midis, où il y a à peu près de 150 à 200 personnes qui sont dans ce parc, actuellement, dans les jours chauds d'été. Ce que nous avons fait, par exemple, c'est que, à la place des pigeons que vous voyez là, on a soutenu l'installation de jeux d'échecs géants. Et qui attire beaucoup de monde. Et j'ai vu, de mes yeux, vu des gens, des travailleurs à la place du Puy qui venaient jouer aux échecs avec des gens qui sont en situation d'itinérance. Ça, je trouve que c'est un exemple intéressant à faire valoir. Un autre exemple, un autre cas, cette année, moi je suis aussi président d'une table de quartier, la table de concertation du Faubourg Saint-Laurent ici. Et nous avons essayé de mettre en place des petits marchés de fruits et légumes. Nous en avons mis un cet été et pour le réaliser, nous avons embauché des personnes qui sont en situation d'itinérance. Et ça nous a permis de créer des liens avec les groupes, justement, qui s'approprient un milieu et qui veulent pas le partager avec d'autres. Et donc, on a pu faire un bout de chemin là-dessus. Donc, moi, ce que je voudrais simplement dire en conclusion, je suis d'accord avec vous pour que on essaye de trouver le génie des lieux qui est là, de le maintenir, ce génie des lieux, et je crois que vous l'avez bien expliqué en remontant à l'origine jusqu'à la Madame Émilie Gamelin qui a parti sa soupe populaire en 1845 à cet endroit-là précisément, une soupe populaire qui a été distribuée jusque en 1962 au moment où on a démoli l'asile de la Providence pour construire le métro. Et puis cette soupe populaire a été remplacée par toutes sortes de groupes qui viennent donner à manger aux gens et aller tous les jours, même quand l'ATSA n'est pas là. L'ATSA, c'est un événement, ça, sur l'année, mais il y a 365 jours dans une année. Allez là le soir à 19h, vous allez trouver des gens qui viennent manger. Donc, il y aura toute une réflexion, d'ailleurs, à faire sur cette approche-là. Mais ce que je veux dire ici, c'est que moi, personnellement, je prendrais acte de tout ce que vous avez dit, mais j'irai voir M. Harel, j'irai voir les gens du partenariat du quartier des spectacles, et les organismes de la communauté, les organismes qui sont ici et qui bossent tous les jours pour essayer d'avoir un milieu sain, un milieu ouvert à tout le monde, et pour trouver que il y a peut-être plus que des descriptions, il y a peut-être plus à faire que simplement de faire de la littérature sur la misère humaine.
Oui, mais je suis d'accord en grande partie avec ce que vous dites, monsieur. Dans le fond, ce que vous dites est très clair, c'est il faut savoir comment vivre ensemble et comment faire en sorte que ces lieux ne deviennent pas des dépôts, c'est-à-dire des ghettos. Hein? Bon, et puis qu'à partir de là, ça se joue une exclusion d'autres populations qui ont droit de cité,
qui se sentent mises de côté, non respectées, marginalisées. En fait, le droit de vivre ensemble, c'est un droit réel. Et je suis tout à fait conscient que dans la réalité, tout ne se passe pas comme dans un récit. On est d'accord, hein? Tout à fait. Donc, vous avez raison de dire ce que vous mentionnez, de souligner les efforts qui sont faits par vous et d'autres organismes. Le problème qui se pose, c'est dans des situations de grande, je dirais, précarité sociale, et qu'on a des populations, vous avez utilisé ce beau mot tout à l'heure, où vous parliez de ces oiseaux qui s'envolaient. Hein. Bon, en même temps, là, ils fuyaient quelque chose, mais en même temps, ils sont mobiles, ils se déplacent, ils reviennent. Qu'est-ce qu'on fait avec des situations qui sont très volatiles, comme celles que vous vivez dans ce quartier? Et de quelle manière on peut faire en sorte que des gens puissent coexister? Parce qu'il y a une responsabilité, comment dire, qui est une responsabilité mutuelle. Hein, tout n'est pas, comment dire, bon, la figure de l'embourgeoisement, je l'ai utilisée, c'est une communication, c'est facile, c'est pratique, bon, comment dire, ça fait partie d'un répertoire d'idées reçues. Là, hein, bon, c'est comme la figure de l'honnête citoyen, mais c'est vrai que, bon, cette exigence du vivre ensemble dans des situations de conflit, c'est une exigence réelle. Moi, j'ai simplement le sentiment, à partir de mon seul domaine d'expertise, qui est celui des récits, mais qui est un domaine important, c'est que lorsqu'on donne à des communautés le droit de différentes manières, que ce soit des récits de mots, des images, de se mettre en place, de se constituer un patrimoine, de se constituer une mémoire, de se constituer une histoire, ces populations commencent déjà à s'enraciner et à devenir moins fébriles. C'est-à-dire qu'elles vivent moins dans le sentiment de l'exclusion ou, je dirais, du nord, du sentiment de l'instant et puis du fait d'être constamment pourchassé. Mais c'est un grand laboratoire urbain, hein, ici, qui pose d'immenses problèmes. Qui peut être source de succès, qui est aussi cette réalité du centre-ville de Montréal. Mais loin de moi l'idée de l'espace ghettoisé ou qui serait celui d'une population précarisée qui aurait une sorte de droit de regard sous forme, je dirais, de réserve ou d'autres espaces. Mais comment faire après ça? C'est compliqué.
Comment faire? Moi, je pense qu'il faut travailler beaucoup sur l'opinion publique, oui. Sur l'imaginaire collectif. Oui. Et les médias ont un certain rôle à jouer là-dessus, oui, parce qu'ils charrient toutes sortes de préjugés de part et d'autre. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est de... Ce qui est fondamental dans la dignité humaine, c'est d'être reconnu par son semblable.
Oui, bien sûr.
Donc, il faut que les gens qui sont en situation d'itinérance, qui sont ici... Bon, il y a le phénomène de la concentration que personne ne veut aborder, là, mais moi, je l'aborde carrément. C'est un élément pour moi majeur. Ouais. Mais en tout cas, ça, c'est une autre question. Ouais. Mais moi, je pense que c'est très important que les gens qui sont en situation d'itinérance se sentent reconnus par le milieu, acceptés par le milieu. Ils auront un parcours, leur parcours. Et puis, bon, ben, il y a des mesures qui sont prises, des mesures collectives qui sont prises pour assurer un certain minimum de coexistence, d'harmonie sociale, etc. Mais, mon Dieu, qu'on essaye de faire en sorte de ne pas créer des tensions inutiles, je suis en train de lire le rapport de la Commission des droits de la personne concernant la question de l'itinérance. Je vous dis, je suis outré.
C'est-à-dire?
Je suis outré parce que c'est un rapport qui est parti d'une plainte qui date de 2004 et puis qui décrit actuellement une situation qui est dépassée, qui n'est pas celle qui était en 2004. Et il y a une attention étroitement juridique là-dedans et qui est fondée sur une certaine vision, un certain cadre. Il y a une espèce de présomption qu'il y a d'un côté le bon citoyen ordinaire comme moi, et bien qui est plein de préjugés, puis de l'autre côté, le pauvre itinérant écrasé, frustré. C'est pas ça la réalité. Elle n'est pas ça la réalité. Il y a plein de gens dans ce quartier ici qui ont des amis parmi les itinérants, qui les saluent tous les jours. Moi, je les connais. Je connais Guy, je connais Roger, je connais Catherine, etc. Je les connais. Je vais aller à la place Émilie-Gamelin tout à l'heure. Là. Je peux y aller. Puis je vais saluer des gens que je connais. Ils habitent notre quartier. Ils sont ici. Donc, il y a toute une relation qu'il faut essayer, des ponts qu'il faut essayer d'établir. Oui. Mais il faut essayer de travailler, finalement, essayer d'arrêter toujours de parler de préjugés des uns et des autres, toujours mettre en avant que on présuppose toujours que les gens ont des préjugés. Bon, la madame veut que je m'arrête là parce que l'heure est passée. OK, je m'arrête, madame.
Mais merci, merci. Il faut travailler sur des liens de confiance. Il faut travailler sur des liens de confiance. Des liens de confiance qui sont singuliers, qui sont à petite échelle dans la vie quotidienne, de manière à ce que le rapprochement se fasse.
Mais la connaissance, parce que les préjugés naissent de l'ignorance.
Oui, oui, ça, bien sûr. Oui. Madame?
Oui, Gilda Elmalé, je travaille justement à l'UQAM et c'est mon lieu de vie, que j'aime beaucoup d'ailleurs, pour toutes ces raisons aussi. Je suis contente que vous ayez parlé de ce square qui, en fait, prend plusieurs spécificités selon les moments de l'année. Et ça peut être des retrouvailles africaines pendant l'été, ça peut être effectivement Hadza. En passant, Hadza, on parlait de l'UQAM tout à l'heure, ce sont deux diplômés de l'UQAM qui travaillent là-dessus. Et justement, j'étais contente que vous abordiez... D'abord, j'étais contente d'entendre une communication qui permet une conscientisation plus approfondie que ses propres questionnements qu'on a, nous, en tant que citoyens moyens, et par rapport à votre recherche. Et je suis contente qu'on ait prononcé le mot « mixité ». Parce qu'actuellement, dans toutes les recherches que l'on fait sur le logement et tout ça, on dit que c'est fondamentalement la solution pour contrer la gentrification, pour contrer qu'on pousse les gens. Donc, je pense que ce lieu-là, et serait tout à fait dans ce genre de recherche pour la mixité. Moi, je veux parler particulièrement d'avec l'UQAM, parce que l'UQAM, c'est un lieu de recherche, et je suis un peu surprise de ne pas voir justement un laboratoire plus poussé. Je sais qu'il y a eu des colloques à l'UQAM sur l'itinérance, mais qui amènerait des solutions plus tangibles, étant donné qu'on est sur le lieu. Alors, je voulais donner juste une précision, monsieur, par rapport aux activités de cet été. Moi, je surveille beaucoup ce qui se passe, le petit marché et tout. Mais une très belle expérience qui a eu lieu l'été dernier, ce sont des étudiants de l'UQAM, du département de musique, qui sont venus pendant tout l'été donc donner des concerts ici. Donc, ça donnait, en plus d'étudiants en art graphique, je ne sais pas trop, qui ont installé pour s'asseoir, qui étaient différents des bancs, mais qui ont fait des installations donc de création. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un lieu où, justement, on met les ressources d'une université et le milieu donc environnant. Ce qui est quand même incroyable par rapport à ce square Émilie. D'ailleurs, ça me dérange, moi, de dire le square Émilie Gallemin. Je ne vois pas pourquoi on francise tout. Puis là, on l'appelle square. Vous parliez tout à l'heure de quelque chose de juridique. Mais en quoi la place Émilie Gallemin serait... ou le parc Émilie Gallemin, il y a quelque chose qui me dérange à ce niveau-là. Mais on imaginerait volontiers... un campus comme dans les campus, comme McGill, comme dans les campus américains, où les étudiants sont là, viennent étudier, et donc en même temps que ces itinérants, ce qui n'est pas tout à fait le cas, à part quand il y a des festivals. Donc ça veut dire, comme on disait tout à l'heure, qu'il y a vraiment un malaise de côtoyer ces gens-là, qui deviennent effectivement des amis, mais des relations. On a notre itinérant à qui on donne des choses, à qui on parle, notre vendeur de l'itinéraire. Et je trouve que c'est un peu raté à ce niveau-là, par rapport à ne serait-ce que ce volet étudiant, où il pourrait y avoir, puisque dans les universités on réfléchit plus normalement, où il pourrait y avoir plus de... Et à ce niveau-là, je trouve que ce lieu-là est un peu raté. Et je me demande jusqu'à quel point, et d'ailleurs il y a eu quelque chose qui m'a un peu, moi... interpellé, c'est qu'il y avait ce qu'on appelle les arts de la rue, des jeunes de la rue qui se passaient sur le lieu de l'UQAM, et on les a déplacés à un moment donné pour des raisons X. Donc ça prouve bien que l'université ne joue pas non plus ce rôle de réflexion, et plus que de réflexion, d'apporter des solutions. Et ça, je trouve que ça pourrait être vraiment un terreau de réflexion, et l'UQAM pourrait être je pense chef de file pour apporter des solutions et pour que ça à la fois donner leur droit de parole et leur droit d'existence physique dans ce lieu-là, mais au-delà de ça, des interrelations par des activités comme ce qu'il y a eu l'été dernier. Je ne sais pas. Donc, c'est une réflexion à ce niveau-là que je pose.
Vous m'enlevez les mots de la bouche. Je vais voter pour vous aux prochaines élections. Enfin, ce que je veux dire, c'est que oui, l'UQAM a une responsabilité. C'est un employeur. Bon, mais c'est une chose. En ce qui me concerne, c'est une institution qui est importante, qui est très importante. Mais l'UQAM ne joue absolument pas son rôle. Il y a même une forme de déresponsabilisation sociale très grave qui consiste à ne pas être là. Et c'est vrai que ça pourrait être un laboratoire absolument extraordinaire. Et là, on a, comment dire, je ne pense pas aux professeurs, là. Je ne parle pas de responsabilité professorale ou étudiantine, mais il n'y a pas de projet de, comment dire, comme on dit, là, c'est un terme totalement galvaudé, mais de projet de société où l'UQAM pourrait intervenir, comme elle a pu le faire dans l'histoire, beaucoup plus tôt, lors de sa création. Alors, on a le modèle de l'université forteresse, avec pont-levis. C'est totalement scandaleux, c'est inacceptable, alors qu'il y a des enjeux cruciaux et que l'UQAM s'est enraciné dans ce quartier il y a déjà longtemps, avec un brutalisme très réel, mais s'est enraciné au centre-ville, dans l'est de Montréal, dès la fin des années 60, c'est 79, 80, 81, la construction du pavillon Judith Jasmin, mais il y a là quelque chose que je considère personnellement scandaleux. Mais je me demande combien de temps on va tenir le coup. Parce que l'on parle de savoir, monsieur parlait de savoir. Le savoir, s'il n'est pas transmis par l'institution universitaire, à qui va-t-on demander de le transmettre? Alors là, il y a quelque chose, d'ailleurs, qui ne coûterait rien. Qui ne coûterait rien. Alors, au lieu de construire des monuments pharaoniques tels l'îlot voyageur et de se créer des mausolées académiques, ce qu'on a en ce moment, il y a une responsabilité, j'aime pas le terme, je trouve que c'est galvaudé, mais citoyenne, qui consiste à agir comme, je dirais, institution de savoir à l'intérieur de cette ville et accepter de vivre là où on est. L'UQAM est au cœur du centre-ville, il n'est pas à proximité du Mont-Royal. Mais il y a un déni, à mon sens, un déni très puissant qui fait en sorte qu'on se retrouve dans une logique d'ignorance mutuelle et qui certainement pourrait être résorbée rapidement s'il y avait une volonté politique de quelque acteur que ce soit.
Je ne suis pas engagé de dialogue avec vous, M. Harel, avec le quartier, concernant ce point.
Demain matin, là, moi, mon travail, je travaille avec les signes, les images, les mots. Alors, j'aime bien cette dimension très concrète. Pour moi, elle est importante et je le dis parce que vous me posez la question, mais je monte un laboratoire sur la mobilité culturelle dans le quartier avec une infrastructure de la Fondation canadienne pour l'innovation qui, justement, ferait intervenir cet aspect de réflexion sur les populations précarisées dans l'arrondissement Ville-Marie, avec Ubisoft, avec d'autres partenaires. Donc, je pense que les conférences peuvent mener à des enjeux très concrets, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à faire sur le terrain. Moi, je serais ravi.
Je vais plus loin dans ce qu'on a fait sur le laboratoire, mais je verrais même d'aller chercher ces acteurs-là de l'itinérance pour eux être acteurs dans ces projets. On dirait des projets de théâtre.
Par exemple.
Comme la TOU, qui a été chercher tout son monde autour, et qui en ont fait des acteurs, et non plus des... Et je verrais, moi, quelque chose comme ça, ouais. Où on donnerait cette possibilité à l'UQAM, où il y aurait un laboratoire théâtral ou littéraire, où on irait chercher ces gens-là, et on leur donnerait cette possibilité. Je suis persuadée qu'on pourrait changer la face.
Moi, je le crois aussi. Mais tout ça passe par la création, par la mise en place de dispositifs de co-création. C'est-à-dire non pas de prise de parole autoritaire de la part soit du citoyen, malgré tout, vivant une existence, je présume, si ce n'est confortable, en tout cas installé dans une vie, alors que ces sujets vivent dans une situation de précarité très réelle. Par définition, l'universitaire est assis. Donc, mais il y a très certainement des dispositifs de co-création qui sont possibles à géométrie variable, mais qui reposent non pas sur le fait de prendre la parole à propos de sujets qu'on maintient dans la servitude, mais de sujets qui interviennent de plein droit. Et mais ça bouscule la hiérarchie universitaire. Parce que si vous avez votre jeune poète qui fait du slam et puis qui a commencé à se piquer à l'âge de 12 ans en dessous des aisselles et puis qui, tout d'un coup, est un nouveau Rimbaud et qu'il n'a pas son doctorat, comment vous allez le faire intervenir dans mon département pour animer un séminaire? Ben, c'est là où il y a des questions très concrètes qui se posent, mais moi, je crois que,
il y a des partenariats aussi avec des organismes, comme par exemple avoir un partenariat de l'université avec ces groupements.
Mais moi, je vous connais, mais vous parlez de cette dimension. Elle est importante, mais l'institution elle-même est muette sur ces enjeux.
Il y a une autre question dans Monsieur. La salle. Si on veut... Je suis désolée.
J'ai bien aimé votre récit polarisé, là, quartier des spectacles, place Émilie-Camelin, parce que ça m'a amené à penser que finalement, le quartier des spectacles a déjà commencé à se déplacer. À cause des scènes, moi, je trouve que c'est un envahissement de la place Émilie-Gamelin, tous ces stages. Et puis, je ne vais pas me faire un critique de l'ATSA, mais l'autre soir, quand je suis allé pour la soirée d'inauguration, il y avait 5 autos de stationnés dans mon parc. Parce que... Je me promène là tous les jours et j'ai trouvé que 5 autos stationnées...
Dans le square.
Dans le square, ouais. C'était un... Comme quand je vois des scènes, je trouve que c'est de l'envahissement.
Ouais.
Alors, dans ce sens-là, j'ai aimé votre appel que ça a déjà été un terrain vague.
Ouais.
Mais comme le dit monsieur, l'initiative des échecs géants, c'est intéressant parce que c'est comme une sorte de formalisation dans le vague. Ça crée un équilibre parce que moi, je ne suis pas un itinérant, je suis un promeneur. En tant que promeneur, je ne veux pas qu'un itinérant prenne ma place. En tant qu'itinérant, je ne veux pas que je veux que ça se côtoie.
Oui.
Alors, pour moi, l'avenir de ce parc-là, c'est un certain relâchement,
oui.
Et surtout éviter que des mobiliers, des scènes,
oui.
Des autos viennent. On ne met pas des autos dans un parc. Déjà, le parc La Fontaine est déjà assez envahi. Dans ce sens-là, vous avez raison, avec votre récit, c'est un lieu d'anarchie qui va rester anarchique. Mais il y a des signes d'envahissement.
Dans le fond, ce que vous dites, c'est qu'il faudrait, si je comprends bien, et j'espère bien comprendre, c'est qu'il faudrait en revenir à une certaine tranquillité ou à un esprit qui est celui, pas du terrain vague, mais du fait d'être dans un square, dans un parc, dans un jardin public, pour marcher et pas nécessairement pour être dans la surenchère spectaculaire, le festival,
la
répétition.
Non, mais le quartier des spectacles est rendu à la place Émilie-Gamelin. Il faudrait le repousser. Vous avez parlé de polarisation bourgeoise. Mais c'est ça, ça sent bourgeoise. Dès qu'on fait des scènes, puis on conquiert des gros événements, on fait qu'on perd notre parc.
Je vous en prie.
OK. Puis juste une dernière chose. Ce qui est intéressant, monsieur a parlé d'une initiative. Il y a une initiative qui a commencé l'hiver, c'est une place pour patiner. C'était fait comme à moitié, c'était abandonné. Moi, j'ai vécu à Québec 4 ans, je suis Montréalais, mais la place Diouville à Québec, c'est un endroit fantastique, très comparable à la place Émilie-Gamelin. Et puis, un endroit où il y aurait... une vraie patinoire avec glace artificielle, ça pourrait créer une dynamique semblable à la place Diouville, qui est vraiment un endroit superbe.
Je trouve très intéressant votre réflexion. C'est une sorte de forum populaire montréalais qu'on est en train de créer. Je ne sais trop, c'est intéressant. Mais l'idée de côtoyer et de ne pas prendre la place de l'autre me semble un élément crucial, d'une part. L'autre élément, c'est qu'on est peut-être victime de notre succès. Montréal s'est formidablement enrichi de façon inégale, bien sûr, mais la réalité dont vous parlez, qui est celle de... puis dont je parlais moi aussi, qui consiste à être assiégé, c'est, dans le fond, la nouvelle réalité de l'industrie des services avancés à Montréal. C'est-à-dire que le domaine du spectacle, du multimédia, de la représentation de Montréal comme une des grandes villes branchées à l'échelle internationale, fait en sorte qu'il y aura de plus en plus de festivals, qu'il y aura de plus en plus de sommets de toutes sortes et qui vont jouer sur cet imaginaire montréalais qui fait en sorte que c'est plus agréable de venir à Montréal que d'être, je ne sais pas moi, à Cleveland ou à Toronto. Bon, donc, il faudra probablement penser, et on doit probablement le faire dès maintenant, notamment avec le quartier des spectacles, à des façons de, je ne dirais pas de préserver, j'aime pas le terme, mais de faire en sorte que la vie humaine normale, qui est celle du résident, soit, j'allais dire préservée, qu'elle soit respectée, que le citoyen ne devienne pas un spectateur involontaire dans une sorte de tribalisme festivalier annuel, qu'une vie soit possible, dans le côtoiement. Moi, je crois beaucoup à ces dispositifs de confiance. On en parlait tout à l'heure à propos de l'aménagement matériel. Si les gens ne se parlent pas, les objets peuvent parler. Mais il s'agit de penser à des façons d'organiser l'espace urbain de façon à ce qu'il y ait un dialogue. Et je crois beaucoup à ce que j'appelle les aires de confiance. C'est un terme, c'est une expression conceptuelle, mais des lieux où le dialogue est possible sans que ça passe par les grands forums habituels de commission, de concertation. Je crois qu'on peut faire des choses à échelle réduite. Je crois que c'est un enjeu réel. Voilà.
Merci beaucoup. On peut peut-être continuer de façon informelle. Merci à tous. Des propos fort intéressants.
Merci, madame.
Pour notre beau square.